Vous écoutez France Musique.
Aujourd'hui, quand le jazz débarque, deuxième émission 1940-1944, vers la victoire avec Franck Bergerot. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette 126e émission du matin des musiciens jazz du mardi. La semaine dernière, avec mon invité Franck Bergerot, nous avons retracé l'arrivée du jazz en Europe et son acclimatation entre les deux guerres. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur du second conflit mondial pour tenter de cerner les interactions nombreuses que l'on peut repérer entre musique et politique, comment la guerre s'inscrit à cette époque dans l'histoire de cette musique et comment le jazz lui-même entre dans la danse entre mobilisation et propagande. Car il faut convaincre les Américains de s'engager dans la bataille et pour cela, tous les moyens sont bons. Les chansons évoquent la conscription, les pasteurs prêchent contre le personnage d'Hitler, les groupes vocaux chantent la rupture du pacte germano-soviétique en juin 1941 ou le traumatisme de Pearl Harbor en décembre de la même année. Les musiciens noirs profitent de ce climat patriotique pour glisser un message subliminal dans leur participation à la recherche de la victoire en songeant à un autre combat, celui des droits civiques, encore loin d'être gagné en ces temps de ségrégation. Les plus grands jazzmen se prêtent au jeu de l'effort de guerre, tel Duke Ellington, et se voient programmés dans des émissions de radio spécialement dédiées aux troupes alliées, où l'on diffuse Force V-Disc, les célèbres disques de la victoire. Même le D-Day, le jour du débarquement, n'échappe pas à la mise en musique, et l'on retrouve bientôt le valeureux Glenn Miller à la tête de son orchestre militaire, au service de son camp, à Londres, tandis que le guitariste Django Reinhardt croise le fer avec les formations américaines de passage à Paris après la capitulation allemande en mai 1945. Et pour cette deuxième émission, j'ai le plaisir de retrouver donc à nouveau Franck Bergerot, rédacteur en chef du mensuel jazz magazine Jazzman, dont le numéro de juin retrace toute cette aventure. Bonjour Franck.
Bonjour Arnaud, bonjour à tous.
La semaine dernière, on s'est quitté en compagnie de Glenn Miller. C'est un peu la figure de proue, la figure avancée, en tout cas pour les musiciens les plus célèbres de cette époque. Et on va le retrouver évidemment dans cette émission.
Oui, nous l'avons quitté en 1944 sur un Auf Wiedersehen qui était adressé aux armées allemandes en 1944. Et là, on va remonter un petit peu dans le temps. Nous le retrouvons en studio le 8 décembre 1941, c'est-à-dire le lendemain du bombardement de Pearl Harbor. Et ce jour-là, il a sur ses pupitres une composition de Jerry Gray qui s'appelle « That's where I came in » et dont il va changer le titre pour la baptiser de la devise de l'US Air Force « Keep 'em flying ». C'est une devise qui est dans l'air du temps puisque Bill Coleman vient d'écrire une chanson du même titre qui vient d'être enregistrée 10 jours plus tôt par Gene Krupa. Les solistes de ce « Keep 'em flying » sont Tex Beneke au ténor, Billy May à la trompette, Shumi McGregor au piano, Maurice Pertil à la batterie et Ernie Cacheres à la clarinette. We'll be right back.
Keep 'Em Flying, une composition rebaptisée de Jerry Gray par le grand orchestre de Glenn Miller. C'était le 8 décembre 1941, c'est-à-dire le lendemain de l'attaque de Pearl Harbor, Franck Bergerot.
Les Japonais américains vont être immédiatement parqués dans des camps. Et Dave Brubeck se souvient dans le livret d'un disque qu'on entendra à la fin de cette émission qu'il était très peiné par le départ de ces Japonais qui partaient vers des camps, puisqu'il connaissait certains d'entre eux qui étaient musiciens. Et il y aura énormément de big bands qui vont se former dans ces camps. Il y a un très beau livre là-dessus qui s'appelle Reminiscing in Swing Time, avec de formidables photos de ces musiciens japonais. Mais pour l'heure, l'Amérique est très revancharde et les titres des chansons qui sont inspirés par ce traumatisme de Pearl Harbor vont plutôt porter le deuil de cette flotte qui a été détruite par les Japonais, avec par exemple le titre Remember Pearl Harbor. Il y a plusieurs chansons, il y en a au moins 4 ou 5 qui portent ce titre, et puis Pearl Harbor Blues, et puis des choses beaucoup plus agressives comme Taps for the Japs, des titres que je traduis, Nous écrasons les Japs entre les cuisses des nazis, Le soleil se couchera bientôt au pays du soleil levant, et puis ce We're gonna have to slap the dirty little Jap, nous allons gifler le sale petit Jap, et oncle Sam est capable de faire ça.
Et là, c'est Lucky Melinder en 1942.
Skin the streak of yellow from this sneaky little fellow, and he'll think a cyclone hit him when he's through it. We'll take this double crosser to the old woodshed. We'll start on his bottom and go to his head. When we get through with him, he'll wish that he was dead.
We gotta slap the dirty little Jap.
Il y a une certaine distance entre ces paroles extrêmement agressives vis-à-vis des Japonais et puis cette musique, finalement, musique de danse, Franck Bergerot. Hein, c'est l'orchestre de Lucky Melinder. Ici, c'est fait pour danser à l'origine.
C'est tout à fait une musique pour danser.
Alors, les Américains vont mettre un certain temps à se mobiliser pour partir en guerre en Europe contre Hitler. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain.
Oui, d'abord, les Américains vont s'abriter derrière le principe de neutralité, malgré la conviction de Roosevelt qu'il va falloir y aller. Et cette réticence initiale, c'est ce que l'on comprend à l'écoute de Una Mae Carlyle chantée aux côtés de Lester Young, Blitzkrieg Baby, qui fait référence à la guerre éclair qui a été menée sur la France par les nazis. Guerre chérie, tu ne peux pas me bombarder car je plaide la neutralité. Guerre chérie, tu sembles si mignonne drapée dans ton parachute. Laisse cette propagande, tu ne peux me bombarder. Puis, elle donne cet avertissement. Je te préviens car je crains d'avoir à passer à l'attaque. Prends garde, sinon tu vas prendre cette grenade.
Blitzkrieg, baby, you can't bomb me, 'cause I'm feeding neutrality. Got my gun out, can you see? Blitzkrieg, baby, you can't bum me. Blitzkrieg, baby, you look so cute, all dressed up in your parachute. Let that propaganda be. Blitzkrieg, baby, you can't bum me. I'll give you warning, 'cause I'm afraid I'll have to read. So take my warning, or else you'll get this hand grenade. Blitzkrieg, baby, you can't bomb me. Better save up your TNT. I don't want no infantry. Blitzkrieg, baby, you can't bomb me.
Le saxophone ténor le plus cool de l'histoire de l'humanité pour parler de guerre. C'est quand même curieux, Frank Bergerow. C'était Lester Young, bien sûr, ici à côté de Una Mae Carlisle, dans ce Blitzkrieg Baby. Alors évidemment, on imagine que ça, c'est dans le domaine du jazz, mais c'est exactement la même chose dans le domaine du blues.
On retrouve la même réticence chez le bluesman Dr. Clayton qui compose Wartime Blues. La guerre fait rage en Europe, sur mer, sur terre et dans les airs. Si Oncle Sam n'y prend pas garde, on pourrait bien être envoyé là-bas. La radio et les journaux nous forcent à croire qu'Hitler et Mussolini sont de dangereux criminels. Mais plus loin, Dr. Clayton nous dit aussi « Il n'y aura pas de paix en Europe tant que l'on n'aura pas décapité Hitler et tant que Mussolini n'aura pas eu une crise cardiaque en apprenant la mort de Staline. » Il faut dire que lorsque Dr. Clayton enregistre ce blues une première fois en juillet 1941, le pacte germano-soviétique vient juste d'être rompu par l'attaque de l'Allemagne sur la Russie. À la fin de son blues, Dr. Clayton souhaite la tuberculose à Hitler, la lèpre à Staline et la folie à Mussolini. Mais il a tout de même un plan pour éliminer Hitler. Il propose à l'oncle Sam de se glisser dans la chambre à coucher d'Hitler, un rasoir à la main. On écoute ce blues repris le 5 décembre 1941 par l'harmoniciste et chanteur Jazz Gillum et c'est Big Bill Bonzi à la guitare.
War is raving in Europe, on water, land and in the air. War is raving in Europe, on water, land, and in the air. And if Uncle Sam don't be careful, we will all be back over there. The whole world is uneasy.
Wartime Blues de Doc Clayton, repris par Jazz Gillum avec le guitariste Big Bill Bronzy. C'était en 1941. Alors, à cette époque-là, évidemment, on essaye de convaincre les Américains de se mobiliser et il y a en pratique la conscription.
Oui, c'est une conscription qui se fait par tirage au sort et les troupes de réserve sont également rappelées. L'accueil des Noirs américains est un peu réservé. Ils ont été échaudés par leur retour des tranchées en 1918, qui a été marqué par des événements assez dramatiques qui ont donné le nom d'été rouge de 1919.
On en parlait la semaine dernière dans cette émission.
Et on voit que c'est vraiment une préoccupation dans les titres des jazzmen de l'époque. En octobre 1940, Buck Clayton écrit pour Count Basie « What's your number ? Quel est ton numéro ?» qui fait allusion à la conscription par tirage au sort. Décembre 1940, c'est Nat King Cole qui chante « Gone with the Draft », qui rappelle le titre « Gone with the Wind ». Et puis, en décembre 1941, Big Bill Bronzy chante « In the Army Now »,« Je suis à l'armée maintenant ». De nombreux musiciens vont d'ailleurs profiter de leur mobilité pour échapper au recrutement, tels Lester Young et Joe Jones, qui seront finalement rattrapés par le FBI un soir de concert au Plantation Café. Et d'autres vont chercher à se faire réformer, comme Dizzy Gillespie, qui découragera le sergent recruteur en se déclarant peu sûr de savoir distinguer un Allemand d'un blanc américain le jour où il faudra tirer. On a enfin un exemple de chanson sur la conscription, chantée par Jimmy Rushing, c'est un titre de Maceo Pinkard, où Jimmy Rushing console la fille qui a vu son amoureux engagé en lui faisant savoir que c'est son devoir et qu'il part pour défendre le pays. C'est Drafting Blues par Jimmy Rushing avec l'orchestre de Count Basie.
A loving man, you better love him while you can. Perhaps you'll have to do his share to help defend this dear old land. They're drafting many men right now to give democracy a hand.
before they call your man, I'll say these words you ought to understand. When Uncle Sam calls out your man, don't sigh, don't cry, because you know he can't refuse to hold him back. Might make him slack. Just say you got those drafting
octobre 1940, l'orchestre de Count Basie et le chanteur Jimmy Rushing, avec entre autres le tromboniste Vic Dickinson et le trompettiste Buck Clayton, pour ce Drafting Blues. Alors évidemment, on peut penser, Franck Bergerot, que les Noirs vont peu à peu se mobiliser contre le personnage d'Hitler qui va rassembler tous les défauts à leurs yeux.
Oui, c'est vraiment le raciste par essence, et notamment les chanteurs de gospel, les bluesmen
et
les prêcheurs vont diaboliser ce champion du racisme. Notamment, nous avons un prêche du révérend Gates qui dit « Je vais vous parler ce matin d'Hitler et de l'enfer. Et quand je parle d'Hitler, je ne peux m'empêcher de penser à l'enfer. Cet homme se transporte d'un étage à l'autre de sa ville par un ascenseur. Il est le dictateur de l'Allemagne. »
I want to speak to you.
Yeah.
This morning,
well,
from this service,
well,
Hitler,
yes,
and here.
Je te le dis, alors que tu reposes dans ton fauteuil, pendant que les hommes meurent sur le champ de bataille. Tu leur dis d'aller, ils doivent aller. Tu leur dis viens, ils doivent venir. Si tu leur ordonnes de se décapiter, ils doivent le faire. Hitler, tu dois redescendre, tu es trop haut, il n'y a qu'un Dieu, tu dois redescendre. Je pense aux enfants innocents, aux femmes qui meurent à travers le pays, que tu écrases comme le démon de l'enfer sur terre. Hitler, tu dois redescendre, tôt ou tard, tu devras payer le prix à la barre du tribunal. Hitler, Dieu a les yeux sur toi, il voit tout ce que tu fais, il entend chaque mot que tu prononces. Hitler, tu dois redescendre.
I'm telling you, pull up there. This morning,
well,
yes, he,
yes,
is the dictator,
well,
of Germany,
well,
Hitler,
well,
you must come down,
must come,
oh, yes,
down.
You must come down,
well,
and I'm saying to you,
well,
as you,
well,
sit fast,
hallelujah,
in your easy chair,
well,
why men,
well,
is dying,
pull up,
on the battlefield,
hallelujah,
you,
well,
can easily,
oh,
be,
yes, sir,
high,
oh, yeah,
and the devil,
no,
on earth,
oh, yeah,
Hitler,
oh, yeah,
and hell,
and hell,
you,
you,
that speak,
well,
the policy,
policy,
oh, for your country,
well,
Hitler,
well,
and hell,
and hell,
you,
well,
there go,
glory,
men will go,
pull up there,
they come,
well,
then they must come,
hallelujah,
you,
you,
if you honor them,
well,
there,
oh, yeah,
next,
yes,
the police,
yes,
come that body.
Help me, Lord. Oh,
it must be done.
Yes. Amen.
Hitler,
well,
you must come down.
Must come down.
You well, too high.
Oh,
yes. The only one God.
Well,
and you must come down.
Hallelujah.
I'm thinking now,
well,
of innocent,
innocent
children,
well,
and women dying,
well,
all over,
pull up there,
the land and country.
Hallelujah.
Yes.
Well,
you come crushing through,
now,
like the demon of hell,
well,
on earth,
well,
Hitler,
well,
you must come down,
well, up there,
soon,
glory,
soon or late,
oh, hallelujah,
you must dance,
well,
at the judgment
bar, hallelujah,
Hitler, God,
God is eyes on
you, Hitler,
God is eyes on you.
God is eyes on you. You is the same.
land in
yes, well,
Liberia.
Oh, yeah.
For you people in Germany.
Oh, yeah.
You
yes,
is a walking
hallelujah.
And talking
hallelujah.
Inside for people. For you people in Germany.
Now.
You
oh, yeah.
must come down.
Must come down. Yeah.
Hitler and Hell, autrement dit Hitler et l'enfer, c'était le révérend Gates en octobre 1941. Là, les paroles sont vraiment tout à fait explicites, Franck Bergerot. Alors, on parle du dictateur de l'Allemagne. Qu'en est-il de Staline? Est-ce qu'on considère Staline au même titre?
Oui, le 22 juin 1941, Hitler attaque la Russie et Roosevelt réagit deux jours plus tard en promettant son aide à la Russie. Elle arrivera bientôt sous forme de matériel militaire, mais aussi d'anches, de saxophones, de clarinettes et de partitions. En effet, Staline a desserré la vis répressive sur le jazz parce qu'il a besoin de rassembler sa population pour vaincre les forces allemandes. On verra même, en 1944, le film Moonlight Serenade diffusé sur les écrans russes avec tous ces morceaux de Glenn Miller qui vont être repris par les big bands qui suivent l'avancée de l'armée russe et qui vont jouer dans les villes russes libérées, Moonlight Serenade, Chattanooga Choo Choo, In the Mood, etc. De son côté, en mars 1943, le Golden Gate Quartet célèbre la résistance soviétique en chantant « Staline wasn't stalling ». Staline ne plaisantait pas lorsqu'il a promis à la bête de Berlin de la chasser de son pays. À ce moment-là vient une explication biblique des chanteurs du Golden Gate Quartet sur l'origine d'Hitler qui aurait été conçu par le diable, jaloux de la création d'Adam. Et le texte continue ainsi. Dans son projet d'être la race dominante, Adolf gagnait partout et jusqu'au moment où il eut l'idée de donner un coup de pied à l'ours russe. Il n'a pas tardé à comprendre son erreur car l'ours lui a infligé un terrible combat, répliquant jour et nuit pendant 17 mois à coups de dents et de griffes. Puis l'ours lui a donné un puissant coup de patte et a retourné la situation à Kharkov. Et tandis que Goebbels a muté en vain sa population, l'ours a fait appel à son copain, le noble combattant Yankee, qui a attaqué Hitler avec ses navires, ses bateaux et ses tanks. Et maintenant Hitler a des cauchemars, car il entrevoit le message de bienvenue du diable en son enfer.
Well, now Stalin wasn't stalling when he told the beast of Berlin that they'd never rest contented till they had driven him from the land. So he called the Yanks and English and proceeded to extinguish the Führer and his vermin. This is how it all began.
Now the devil, he was reading in the good book one day how the Lord created Adam to walk the righteous way. And it made the devil jealous. He turned green up to his horns, and he swore by things unholy that he'd make one of his own. So he packed two suitcases full of grief and misery, and he caught the midnight special going down in Germany. Then he mixed his lies and hatred with fire and brimstone. Then the devil sat upon it. That's how Adolf was born. Now Adolf got the notion that he was the master race, and he swore he'd bring new order and put mankind in its place. So he set his scheme in motion and was winning everywhere until he up and got the notion for to kick that Russian bear. Well, now Stalin wasn't stalling when he told the beast of Berlin that he'd never rest contented till they had driven him from the land. So he called the Yanks and English and proceeded to extinguish the Führer and his vermin. This is how it all began. Yep, he kicked that noble Russian. But it wasn't very long before Adolf got suspicious that he had done something wrong. 'Cause that bear grabbed the Führer and gave him an awful fight. 17 months he scrapped the Führer, tooth and claw, day and night. Then that bear smacked the Führer with the mighty armored paw, and Adolf broke all records running backwards to Kharkov. Then Goebbels sent a message to the people everywhere that if they couldn't hit the Führer, God don't hit that Russian bear. Well, now Stalin wasn't stalling when he told the beast of Berlin that he'd never rest contented till they had driven him from the land. So he called the Yanks and English and proceeded to extinguish the Führer and his vermin. This is how it all began. Then this bear calls on his buddy, the noble fighting Yank, and they set the Führer running with their ships and planes and tanks. Now the Führer's having nightmares, 'cause the Führer knows darn well that the devil's done wrote to welcome on his residence in hell. Now
Staline n'était pas un plaisantin, c'est ce que chante le Golden Gate Quartet en mars 1943 à New York. C'est la grande mode des quatuors vocaux hein, à cette époque-là, Franck Bergerot.
C'est la mode des quatuors vocaux, qui n'étaient pas toujours des quatuors d'ailleurs, qui parfois étaient des sextoirs, mais on chantait à quatre parties.
Certains d'entre eux, effectivement, demandent à participer à l'effort de guerre, même les Noirs.
Leur répertoire va basculer du chant revanchard qu'on a entendu tout à l'heure au chant patriotique et au fait d'armes, tel celui qui est rapporté dans la chanson Praise the Lord and Pass the Ammunition, qui au départ n'est pas du tout un chant gospel, qui est composé par Frank Loesser. C'est une chanson qui est inspirée par la bravoure du lieutenant aumônier Howell Forgy, attaché au croiseur New Orleans lors de l'attaque de Pearl Harbor. Alors qu'on lui suggérait de prier pour les combattants, il aurait posé sa Bible pour se joindre aux mitrailleurs, leur criant, dans le fracas des armes, « Priez le Seigneur et passez les munitions ». La chanson fit fureur, et parmi ses reprises, on trouve l'interprétation du Southern Sons Quartet, où figure l'un des membres fondateurs du Golden Gate Quartet, William Langford, et l'un des futurs membres des Ink Spots, Clifford Givens.
Down went the gunner, a bullet was his fate. Down went the gunner, and then the gunner mate. Up jumped the five-pilot, gave the boys a look, and manned the gun himself as he laid aside the book, shouting, Praise the Lord and pass the ammunition. Praise the Lord and pass the ammunition. Praise the Lord and pass the ammunition, and we'll all stay free. Hallelujah!
Priez le Seigneur et faites passer les munitions. Praise the Lord, pass the ammunition. Chanté ici par le Southern Sons Quartet en 1942. L'année suivante, on retrouve un peu le même type d'inspiration, Franck Bergerot, avec les quatre vagabonds, les Four Vagabonds.
Oui, qui chantent l'héroïsme des aviateurs, les drames du combat aérien, qui ont inspiré de nombreuses chansons de l'époque. Le titre de la chanson « Coming in on a wing and a prayer » vient d'un film de 1942, « The Flying Tigers », les tigres volants, où le capitaine Jim Gordon, joué par John Wayne, demande des nouvelles d'un avion qui tarde à rentrer à sa base et s'entend répondre « Il a été touché par un avion japonais et il rentre sur une seule aile et sur une prière ». Voici ce qu'en fit Harold Adamson sur une musique de Jimmy McHugh. L'un de nos avions manque à l'appel, la radio grésille et l'on attend un message. Et soudain, une voix a percé ce grésillement, et voici ce que nous avons entendu. L'un de nos moteurs est en panne, mais on peut encore voler, nous rentrons sur une aile et sur une prière.
One of our planes was missing, 2 hours overdue. Yes, one of our planes was missing, with all its gallant crew. The radio sets were humming, they waited for the word. Then a voice broke through that humming, and this is what they heard. Coming in on the wing and a prayer. Coming in on a wing and a prayer. Though there's one motor gone, we can still carry on. Coming in on a wing and a prayer. What a show,
what a show,
what a fight,
what a fight.
Yes, we really hit our target for tonight, tonight. How we'll sing as we limp through the air. field over there with our full crew aboard and our trust in the Lord coming in on the wing and a prayer.
Coming in on a Wing and a Prayer, les Four Vagabonds en 1943. Alors tout le monde n'est pas forcément sur la même longueur d'onde parmi les musiciens noirs en particulier. Certains veulent bien éventuellement être mobilisés, mais il faut remarquer que la ségrégation règne toujours en maître et que ce n'est pas tout à fait le même traitement pour les uns et pour les autres.
C'est même la préoccupation de l'ensemble de la population noire, puisqu'en 1941, le leader syndicaliste noir Philip Randolph menace de marcher sur Washington si les Noirs n'ont pas accès aux emplois dans les usines d'armement. Et Roosevelt va céder et permettre aux Noirs de profiter de ce formidable boom à l'emploi que consiste l'effort de guerre. Le bluesman protestataire Josh White, qu'on a déjà écouté dans votre émission il y a quelques mois, soutient cette lutte antifasciste des armées alliées, mais s'élève également contre la ségrégation à l'embauche des usines. Il se plaint également de voir les Noirs écarter des troupes combattantes. Et il chante ceci. « Les avions volent à travers le pays et l'océan. Tout le monde vole. Mais à un Noir comme moi, Oncle Sam dit, « Ta place est au sol. Lorsque je fais voler mes avions, je ne veux pas voir de Noirs alentour. Dans la navale, tout ce qu'il me trouve comme job, c'est comme serviteur au mess. Oncle Sam dit, « Reste à ton tablier, fils. Je ne veux pas te laisser servir mes canons. » À l'armée, j'ai retrouvé le même vieux Jim Crow. Oncle Sam dit, « Deux camps pour les Noirs et les Blancs. Mais quand les problèmes commencent, nous serons tous dans le même combat. » Si vous me demandez ce que je pense de la démocratie, je veux dire la démocratie sans ségrégation. Oncle Sam dit « Nous partageons la voix américaine. Allons-y tous ensemble et tuons Jim Crow demain. » Et le personnage de Jim Crow était l'incarnation de la ségrégation dans le folklore du sud des États-Unis.
Well, airplanes flying across the land and the sea. Everybody flying but a Negro like me, Uncle Sam says. Your place is on the ground. When I fly my airplanes, don't want no Negro round. The same thing for the Navy when ships go to sea. All they got is a mess boy's job for me, Uncle Sam says. Keep on your apron, son. You know I ain't gonna let you shoot my big Navy gun. Got my long government letters, my time to go. When I got to the army, found the same old Jim Crow, Uncle Sam says. Two camps for black and white. But when trouble starts, we'll all be in that same big fight.
Le bluesman Josh White dans Uncle Sam Says. Donc nous sommes maintenant en plein dans le second conflit mondial. Évidemment, on cherche la victoire bientôt des forces alliées, mais il y a aussi une victoire un peu plus discrète et encore secrète, c'est celle que les Noirs américains visent dans leur combat pour les droits.
Oui, car les activistes noirs vont inciter la communauté noire à s'engager contre le fascisme outre-mer, à combattre pour les valeurs de la démocratie. Ce combat va se doubler d'un autre combat qui est celui pour la démocratie à l'intérieur du territoire américain. Et c'est ainsi que le 7 février 1942, deux mois après Pearl Harbor, le Pittsburgh Courier lance le slogan de « double victory », la double victoire. Et Fats Waller s'en empare le 30 juillet 1942, lorsqu'à la fin de sa chanson « Swing out to victory », il s'écrie à deux reprises « double victory, double victory ». Comme une espèce de message subliminal pour terminer son enregistrement.
Victory over here, over there, anywhere. We
can take 'em 1, 2, 3 with a riff, a break, and a flare. Trumpets blasting through the air with a rap and a tap on the drum. Yeah, man, solid, here we come. If you're really with me, let's get in a tank. Let's get going, buddy. Come on, spank the plank. On the land, in the air, and the sea, let's swing out to victory. For your home, for your life, you and me, let's swing to victory.
Swing Out to Victory, l'ode à la victoire, mais à la double victoire évidemment, dans le sens caché pour Fats Waller. C'était en juillet 1942, il ne connaîtra ni l'une ni l'autre de ses victoires puisqu'il va décéder l'année suivante, encore très jeune, le pauvre Fats Waller, Frank Bergerot.
Et en 1943, c'est une époque de grandes émeutes qui rappelle un peu cet été rouge que j'ai évoqué tout à l'heure, l'été rouge de 1919 qui a accueilli le retour des tranchées européennes pour les soldats noirs. En 1943, Duke Ellington commence une série de concerts à Carnegie Hall où il crée des grandes suites à programme autour du thème de l'intégration de l'homme noir dans la société américaine. La plus connue, la première, s'intitule Black, Brown and Beige. Et elle est suivie par une grande suite également, New World A-Coming, qui emprunte son titre à un livre évoquant les problèmes quotidiens des Noirs en Amérique, écrit par le journaliste Roy Otley, qui fut l'un des rares correspondants de guerre noire sur le théâtre des opérations en Europe à partir de juin 1944. New World A-Coming fut aussi le titre d'une émission de radio harlémite dont nous allons entendre le générique joué par Duke Ellington lors de sa première diffusion.
We therefore resolve that any measure intended to deport Negroes from the United States seems to us a new route to perpetual bondage.
The idea of sending people to Africa who had lived in this country for 200 years was fantastic.
Cette radio était destinée aux Noirs qui, tout en les incitant à participer à la lutte contre le fascisme, dénonçaient les discriminations, notamment celles visant les soldats noirs lorsqu'ils rentraient au pays en uniforme. Langston Hughes y contribua par des sketchs qui étaient lus par l'acteur Canada Lee, que nous entendons narrer ici l'accueil fait à un soldat noir dans un hôtel du Sud.
Bellhop.
You waiting for somebody, soldier?
Yes, sergeant.
Don't you know you don't belong here?
What do you mean?
No colored in this hotel, and that means you.
But I was sent here to play the piano for a war bond rally that's being held upstairs.
Well, you're still in Virginia.
But, sergeant...
No back talk.
I was just telling you
that... Oh, a nasty guy, huh? Drag him out, Joe.
A number of people standing about the hotel witnessed this bit of Americana without lifting a protesting voice.
C'était un extrait de cette émission New World Coming avec le comédien Canada Lee et l'orchestre de Duke Ellington qui signait l'indicatif de cette émission. Ici, c'était le 5 mars 1944. On va retrouver Ellington un petit peu plus tard. Il a participé, lui, à l'effort de guerre, Frank Bergerot.
Oui, car les artistes, dans leur ensemble, étaient invités à faire la promotion des War Bonds, qui étaient des bons du Trésor, pour soutenir l'effort de guerre.
Une sorte d'emprunt.
Une sorte d'emprunt. En 1945, donc, Duke Ellington va y participer dans le cadre d'une émission intitulée « Your Saturday Date with the Duke », qui consistait en un show préenregistré en différents lieux en fonction des tournées du Duke. Le 11 août 1945, on est 5 jours après Hiroshima, 2 jours après Nagasaki, 3 jours avant l'annonce de la capitulation par le Conseil impérial japonais. Et Duke Ellington fait la promotion de ses bons.
We don't have to bomb Tokyo. We don't have to spend our lives shut up in submarines. All we have to do is lend our money.
Nous ne vous demandons pas de bombarder Tokyo, ni de risquer votre vie dans un sous-marin. Tout ce que nous avons à faire est de prêter notre argent à notre pays. La guerre avec le Japon aura été longue et dure. Notre part de la victoire est la part la plus facile.
And now, Duke, with just about a minute, 50 seconds playing time left, let's have a portion of that black, brown and beige tuned Emancipation Celebration.
Ensuite, pour clore l'émission, Duke Ellington va prendre un extrait de sa fameuse suite Black, Brown and Beige, qui est une réflexion sur l'émancipation, et il joue Emancipation Celebration, qui est le moment où il raconte les fêtes de l'émancipation à la fin de l'esclavage, à la fin de la guerre de sécession. Et c'est Rex Stewart, le principal soliste, ici au cornet.
We've had our Saturday afternoon date with the Duke. Duke Ellington and his celebrated orchestra sent coast to coast for your dancing and listening pleasure by the American Broadcasting Company in cooperation with the United States Treasury and Mr. James C. Petrillo, President of the American Federation of Musicians. Join us again next Saturday afternoon for your date with the Duke, won't you? This is Bill Abernathy inviting you. This is the American Broadcasting Company.
American Broadcasting Company, ABC, c'était donc le 11 août 1945, la Saturday Date with the Duke, le rendez-vous du samedi avec l'orchestre d'Ellington qui faisait la promotion de ses bons du Trésor pour financer l'effort de guerre américain, Franck.
Et les autorités aussi demandaient aux artistes de faire passer des consignes, notamment en ce qui concerne le renseignement, et demander au public de tenir sa langue. On connaît notamment un titre qui était joué par Glenn Miller, « Tch, it's a military secret ouais. ». Ferme-la, il suffit que ta langue est fourchée pour que survienne un malheur. Le 30 mai 1943, dans l'émission dominicale « The Fitch Bandwagon », sponsorisée par le shampoing Fitch, Duke Ellington reprend « A slip of a lip can sink a ship » de Luther Anderson et Mercer Ellington, qu'ils avaient déjà gravé un an plus tôt sur les disques RCA Victor de Duke. Cette fois-ci, c'est Reynolds qui chante « Tch, ne parle pas trop. Tch, n'en sais pas trop, Jack. Ne fais pas trop le malin, car un mot de travers suffit à couler un bateau. »
Don't talk too much. Don't know so much. Now, Jack, don't you be so hip. Flip the lip, might sink the ship. Don't see too much. Hey, boy, don't you jive so much. Now, Jack, don't you be so hip. Flip the lip, might sink the ship. Walls have ears. The night has eyes. So let's be wise. We'll trick those nasty, nasty spies. Don't talk too much. Don't know so much. Now, Jack, don't be so hip. Slip the lip, might sink a ship. Thank you. just be loquacious.
Le 30 mai 1943, Slip of the Lip, l'orchestre de Duke Ellington, avec en soliste Ray Nance, chanteur et trompettiste. Alors, il y a aussi à cette époque-là ce qu'on appelle les disques de la victoire, les V-disques, Franck Bergeron. Alors, ils sont diffusés sur un réseau particulier.
Il y a deux choses. La division du spécial service qui est chargé du moral des troupes va créer deux services. La section musique qui est chargée de la production de disques, et on va en reparler, et le service radio des forces armées, AFRS, destiné au personnel dispersé sur les différents fronts. Ce service compte au moins cinq principales émissions. Donc là, ce sont des émissions. Music America Loves, G.I. Jive, qui était animé par des speakerines dont la sensualité donnait à rêver au G.I., Command Performance, Mail Call et Jubilee Show, qui était destiné aux troupes noires et qui accordait la plus grande place au jazz le plus authentique. Mais alors que le syndicat des musiciens mène une grève des enregistrements d'août 1942 à fin 1944, soucieux de renouveler leur programme, les responsables de la FRS, service radio, invitent les artistes à participer à l'effort de guerre en se produisant dans leurs émissions, qui font l'objet de transcriptions sur des disques en vinylite, 33 tours, 40 cm, ce qui permettait d'obtenir 15 minutes le temps de diffuser une partie d'émission. Et ces disques, ces transcriptions, étaient envoyés dans les différentes stations dispersées sur les différents fronts. Et nous écoutons l'une des transcriptions de l'émission G.I. Jive, après l'envoi du générique, composé par Johnny Mercer, elle est présentée par la pulpeuse Martha Wilkerson, alias G.I. Jill.
Here's Jill and the G.I. Jive.
Hi, fellas. It's my great pleasure to bring to you G.I. Jive number 892, which is a very corny way of saying this is Jill with the 892nd session of G.I. Jive, which takes place daily in the AEF jukebox of the air. Here's the band lineup, gang. Count Basie, Hal McIntyre, Lucky Millinder, and Tommy Dorsey. Four records that I hope will be okay with everyone.
Alors là, Franck Bergeron, on l'entend annoncer le programme de l'émission, Count Basie, Earl McIntyre, Lucky Millinder, Tommy Dorsey.
C'est ce qu'elle appelle le jukebox on the air. C'était le jukebox des ondes. Et donc, elle annonce différents artistes dont elle a des disques. Alors, on est en pleine grève du disque, de l'enregistrement.
D'où sortent ces disques?
Eh bien, ces disques, ce sont les fameux V-disques. À partir d'octobre 1943, ces émissions vont disposer d'une nouvelle source de musique fraîche grâce au lancement du Victory Disc ou V-disque par la musique section du War Department. Cette section a négocié avec le syndicat des musiciens la permission de contourner la grève en enregistrant des disques exclusivement destinés aux armées, interdits à la vente, sous la promesse qu'ils seront détruits à la fin de la guerre. D'où leur côté très rare, ils vont être très recherchés par le public européen, notamment lorsque les Américains vont débarquer sur le continent, un continent privé de jazz depuis 4 ans. Ils sont gravés sur des 78 tours 30 cm pour une durée de 6 minutes, assez inhabituelle dans les catalogues de musique populaire jusque-là. Les sources sont multiples, ce sont soit des enregistrements studio, soit des enregistrements live en concert, soit des extraits de transcription des émissions du service radio, comme quoi il y a une espèce de...
Ça boucle.
Il y a une boucle. Chaque mois, vers les différents fronts, partent des centaines de kits comprenant de 10 à 30 V-disques, un assortiment d'aiguilles de lecture, les paroles des chansons, et un questionnaire que les soldats peuvent retourner pour formuler leurs souhaits. Les V-disques sont distribués aux unités, aux stations de radio de l'armée. Donc lorsque G.I. Jill annonce qu'elle va nous faire entendre du Count Basie, il s'agit bien d'un V-disque sur un titre de circonstance composé par le trompettiste Buck Clayton, G.I. Stomp.
The jukebox is all warmed up and ready to send Count Basie out with his G.I. Stomp.
Thank you.
G.I. Stomp, une composition de Buck Clayton pour l'orchestre de Count Basie. C'était le 12 juin 1943 à Hollywood. Alors ça, c'était un disque de la victoire. C'était un V-disque, Franck Bergerot.
C'est un V-disque.
Ça a été enregistré, donc spécifiquement, ça ne se trouvait pas dans le commerce à l'époque.
Ça ne se trouvait pas dans le commerce, c'était interdit à la vente.
Alors j'imagine que, évidemment, quand l'histoire avance et qu'on arrive au moment du débarquement, on va retrouver aussi des enregistrements qui parlent de ce débarquement et peut-être même qu'on peut avoir des surprises dans certaines émissions de radio.
Oui, on a un enregistrement quasiment historique. Nous sommes dans la nuit du 6 au 7 juin 1944 à l'écoute de la chaîne WOR qui diffuse le concert de l'orchestre de Harry James du toit de l'hôtel Astor à New York.
This program of music by Harry James and his orchestra to bring you a bulletin just received in the WOR newsroom. London. The German news agency Transocean said today in a broadcast that the Allied invasion had begun.
On est en train de danser sur le toit de l'hôtel Astor et tout à coup le speaker reprend la parole. Que se passe-t-il?
Peu avant 1h du matin, alors qu'à l'est, l'aube se lève sur les plages de Normandie où le débarquement a commencé 24 heures auparavant, le programme musical est soudain interrompu par cette annonce. L'agence allemande d'information transatlantique annonce dans un communiqué radiophonique que l'invasion alliée a commencé.
This, however, is an unsubstantiated enemy claim. We repeat, this is an unsubstantiated enemy claim.
Ceci est une déclaration non confirmée de l'ennemi.
Stay tuned to WOR for further details. We return you now to the music of Harry James and his orchestra.
All the lights dim down.
Donc là, nous étions dans une émission de radio en juin 1944, au moment du débarquement. Quelques heures plus tard, les Américains apprennent en fait par la radio ennemie l'existence du débarquement allié.
Oui, il semble qu'il y ait une grande discrétion sur l'opération. D'ailleurs, le débarquement a été préparé dans le plus grand secret. Et puis, il semble aussi qu'on veuille ménager la communauté américaine et cacher un petit peu la violence de l'opération où il y a quand même énormément de victimes. Ce qui explique peut-être la décontraction avec laquelle Nat King Cole chante le D-Day comme un appel au calme et à la patience.
Et là, c'est en juillet 1944. C'est une transcription radio.
Et il chante « Prends une chaise et assieds-toi. J'ai des nouvelles de l'armée. Relax. » Jamais la visibilité n'a été si bonne lorsque nos gars ont été fixés sur la date du D-Day. On espère qu'ils seront bientôt de retour. Pour le moment, le silence est de rigueur jusqu'au D-Day. Ça prendra plus d'une semaine, aussi soyons patients et gardons notre calme. Ne vous laissez pas impressionner par les nouvelles alarmistes. Nous devons les aider, nous sommes avec eux. Achetez les bons de guerre pour le D-Day.
Grab a safe chair and sit down, get you. Gonna hear some news of the military nature. Relax while I give you the latest report. Sport. There never was a finer sight when all our boys were fixed to fight on D-Day, 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 D-Day. We hope they'll soon be coming back, for now they're on a solid track since D-Day, 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 D-Day. It'll take more than a weekend, so let's be patient and calm. Cut out that public speaking, or we'll be the victim of false alarm. We got to help, we're in it too. So buy those bars and a doom in you for D-Day, 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 D-Day. Thank you.
more than a weekend. So let's be patient and calm. Cut out that public speaking, or we'll be the victim of false alarms. We got to help with any two. So buy those bonds and a doobie you for D-Day, 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 D-Day.
Le trio de Nat King Cole, pianiste et chanteur, bien sûr, avec Oscar Moore à la guitare et Johnny Miller à la contrebasse, qui chantait donc le jour du débarquement, le D-Day. Un D-Day, évidemment, qui va être chanté un peu partout sur la planète après le débarquement des troupes alliées. Mais où est donc passé pendant ce temps-là notre ami Glenn Miller, qu'on a laissé au début de cette émission, Franck?
Eh bien, Glenn Miller, il est d'abord aux États-Unis. Vous savez que c'est un tromboniste, compositeur, arrangeur, né en 1904, qu'il va s'imposer à la fin des années 30 parmi les chefs de file du jazz blanc en big band. Dans les référendums des lecteurs de Dunbeat, grâce à ses compositions In the Mood et Moonlight Serenade, il dispute la place à Tommy Dorsey, un autre tromboniste chef d'orchestre, dans la catégorie Sweet Music face à Benny Goodman, qui domine la catégorie Swing. Pas de noir à l'époque dans les référendums, ça viendra un peu plus tard. Comme l'Amérique entre en guerre, trop âgé pour être incorporé, il se propose de moderniser l'orchestre militaire, comme l'avait fait Jean-Philippe Sousa quelques décennies plus tôt, en y intégrant la virtuosité et les rythmes du jazz. Son adaptation en forme de marche de Saint Louis Blues se heurte tout d'abord aux réticences des autorités.
Cela ressemble beaucoup au St. Louis Blues de W.C. Handy. C'est la St. Louis March dans l'arrangement de Jerry Gray pour l'orchestre militaire de Glenn Miller qui va bientôt traverser l'Atlantique, Franck Bergerot.
Oui, pour l'heure, il est en train de gagner la confiance des autorités grâce au succès de l'émission de recrutement pour l'armée de l'air I Sustain the Wings qu'il anime sur la chaîne CBS sous le grade de capitaine. Il a été nommé capitaine avec son Army Air Force Band qui comptera jusqu'à 50 pupitres avec des cordes. Fin juin 1944, il débarque sur les côtes écossaises avec son orchestre baptisé Orchestre de la Force Armée Expéditionnaire qui fait la tournée des bases arrières alliées, enregistre pour les émissions de l'American Forces Network destinées aux soldats américains et celle de l'American Broadcasting Station in Europe dont la speakerine allemande Ilse Weinberger s'adresse aux soldats de la Wehrmacht pour introduire Glenn Miller, désormais commandant.
Deutsche Soldaten. Vor das Mikrofon tritt jetzt persönlich Major Glenn Miller.
How do you do, Ilse? Here we are again for our short rendezvous, and I wish to thank you for the nice things you said about the members of our orchestra.
Et Glenn Miller enchaîne ensuite en présentant son orchestre comme l'image fidèle du grand melting pot américain, puisque l'on trouve dans cet orchestre des musiciens de toutes les nationalités, allemandes, russes, italiennes, etc. Et il précise qu'ils sont désormais tous d'authentiques Américains qui siègent au sein de son orchestre sans se préoccuper de savoir d'où vient l'un ou d'où vient l'autre. Et il y voit évidemment le symbole d'unité dans le grand combat pour la liberté et la paix, évitant toutefois de rappeler qu'aucun noir ne figure dans son orchestre.
I'd like to add that you find all nationalities among them. There are even quite a number of boys whose parents came from Germany, Russia, Italy, and many other countries. But today they are true Americans, sitting side by side with their buddies, no matter who they are or where they came from. This is a true picture of the great melting pot America, and a symbol of unity in the fight for freedom and peace.
Ja, das war sehr schön gesprochen, Herr Major, und ich hoffe, dass es recht viele verstanden haben. Major Glenn Miller, der Dirigent des Orchesters der Alliierten Expeditionsstreitkräfte, erhebt jetzt den Taktstock und bringt Ihnen als erstes Here We Go Again. Thank you.
Here we go again, de Jerry Gray, l'arrangeur de l'orchestre de Glenn Miller. Glenn Miller, que l'on entendait ici pour une séance du 6 novembre 1944. C'était une émission de radio à destination des soldats de la Wehrmacht. C'était vraiment de la propagande sur cette émission enregistrée, bien sûr, à Londres. Et ça s'appelait
L'heure de la Wehrmacht.
L'heure de la Wehrmacht, voilà. Là, on était donc le 6 novembre 1944. Cela ne va pas très bien se terminer pour Glenn Miller, puisque un mois plus tard, le 15 décembre, son orchestre part par bateau pour la France et lui, il prend l'avion. Et malheureusement, l'avion sera perdu au-dessus de la Manche sur le chemin de l'Olympia, puisqu'il aurait dû jouer avec son orchestre à Paris, à l'Olympia. Mais l'histoire de Glenn Miller s'est arrêtée là.
L'Olympia où l'orchestre, d'ailleurs, jouera seul.
Bien sûr, il y avait d'autres orchestres importants dans l'armée américaine. On connaît surtout Glenn Miller aujourd'hui,
oui, mais
à l'époque.
On en comptait des centaines. Et on oublie souvent de mentionner l'US Navy Band, qui était dirigé par le clarinettiste Artie Shaw, qui avait été invité à former cet orchestre en 1942, après son incorporation. Artie Shaw fut l'oublié des référendums des lecteurs de Don't Beat, mais reste une des grandes figures de la swing era, l'ère du swing. Elle est peut-être le chouchou des grands connaisseurs parce qu'il y avait une exigence musicale, une musicalité dans le phrasé de son orchestre qui était assez peu banale. Son US Navy Band, également connu sous le nom des Rangers, compta de formidables musiciens comme le trompettiste Max Kaminski, le batteur Def Toth, le pianiste Claude Sarnil, qui ensuite d'ailleurs va quitter pour former son propre orchestre de la flotte américaine, et le saxophoniste Sam Donahoe. Revenu exténué d'une longue tournée dans l'enfer du Pacifique en guerre, au cours de laquelle Artie Shaw perdit une partie de son ouïe lors d'un bombardement japonais, il fut démobilisé en février 1944. C'est Sam Donahoe qui prit la direction de l'US Navy Liberation Forces Band, qui gagna l'Angleterre dès avril 1944 afin de divertir les troupes qui se préparaient pour le D-Day. Sam Donahoe donna à son orchestre une orientation plus noire sous l'influence de Count Basie et Jimmy Lunceford. Et les vrais jazz fans anglais le préférèrent à Glenn Miller, qu'il affronta d'ailleurs lors d'une bataille d'orchestre qui est restée dans les mémoires, quoi qu'il n'en reste rien. L'émission s'est perdue, c'était lors d'une émission. Une bataille d'orchestre qui a été à l'avantage, dit-on, de Sam Donahoe. On écoute ici Sam Donahoe sur un V-disque dans sa composition Convoy, qui évoque la pénible traversée de l'Atlantique en avril 1944 sur un navire très inconfortable, un LST, Landing Ship Tank, conçu pour le débarquement des chars d'assaut et des véhicules lourds. Convoy, donc c'est le convoi. We'll be right back.
Convoy, le saxophoniste Sam Donahue en juin 1945. Là, c'est à New York, Frank Bergerot. Il y avait encore d'autres orchestres militaires importants à cette époque.
Oui, on pourrait en citer de nombreux. J'ai dit que Claude Sornil avait quitté l'orchestre d'Artichaut. Et il a créé effectivement un autre orchestre pour la marine. Il y avait dans la marine également l'orchestre de Bob Crosby. En Angleterre, il y avait les Squadroners de la Royal Air Force. Il y avait un orchestre canadien, c'est le Canadian Band des forces alliées. Et puis Django Reinhardt a eu l'occasion de jouer avec deux orchestres américains. Le premier à Marseille, dont Hugues Panassier, qui n'était pas une exagération près, a dit que c'était devenu la capitale du jazz américain en Europe. Mais il est vrai que Marseille était alors un port de transit où il y avait beaucoup de jazzmen qui sont passés, pas forcément les plus connus, et notamment l'orchestre noir des Jelly Rogers. Et puis, à Paris, Django a joué avec l'Air Transport Command Band, qui était dirigé par le sergent Jacques Platt. Il en reste une quinzaine de faces radio au studio, et nous écoutons dans une des compositions de Django, « Are You in the Mood ?»
Are You in the Mood, le guitariste Django Reinhardt soliste ici avec le Air Transport Command Band des musiciens américains, bien sûr, dirigé par Jack Platt. C'était en novembre 1945. Alors évidemment, Frank Bergerot, on aurait pu aborder tout un tas d'autres sujets. C'est très riche, cette histoire du jazz dans la guerre.
Oui, on aurait pu évoquer la place du jazz dans l'Europe occupée, en France, en Belgique, en Hollande, en Italie. On aurait pu parler de la place du jazz dans certains camps de concentration qui eurent leur jazz band, le phénomène des azous en France, la répression des amateurs de swing en Allemagne qui se fit de plus en plus féroce au fur et à mesure que les jeunes jazz fans se radicalisaient et se rapprochaient des mouvements de résistance comme la Rose Blanche, ce qui fit dire à un chef de la Gestapo chargé de la répression: on commence par écouter Duke Ellington et on finit par fomenter un attentat contre le Führer. Mais l'heure tourne et je vous propose qu'on se quitte avec Dave Brubeck.
Alors pourquoi est... Dave Brubeck ? Ça fait partie de ceux qui ont débarqué le 6 juin ?
Oui, pas le 6 juin, il a débarqué très tard, mais à Omaha Beach, tout comme John Hendricks, beaucoup plus tôt. John Hendricks a débarqué, lui, en juin, une dizaine de jours après le débarquement, dans une unité d'intendance. Les Noirs étaient souvent écartés des combats. Dave Brubeck débarque donc en septembre à Omaha Beach. Il est repéré très rapidement par un colonel qui l'écarte des combats pour jouer du piano.
C'est peut-être ce qu'il savait faire de mieux. Ouais.
Et il suivra l'avancée des troupes. Il va voir de très près la bataille des Ardennes. Il ne va pas y participer, mais il va traverser des moments assez épiques avec son orchestre, qui est le Wolfpack, qui est constitué de soldats blessés légers, musiciens, qui le regroupent. Il y aura même un noir dans son orchestre, qui, dans l'armée américaine, est difficile à trouver, et qui anticipe sur son fameux quartet, qui comptera un noir aux grandes dames des spectateurs du Sud. Et il accompagnera avec le Wolfpack les forces alliées jusqu'à Nuremberg, où il fera la réouverture du théâtre de Nuremberg pendant le procès de Nuremberg. Et on l'écoute seul au piano à la fin de sa vie, évoquant la traversée du Rhin par les véhicules blindés et le bruit lancinant des chenilles sur les ponts métalliques jetés sur le Rhin. C'est « We Cross the Rhine », enregistré en 2004.
C'est sur ce titre de Dave Brubeck, We Cross the Rhine, nous avons traversé le Rhin, enregistré à la toute fin de sa vie, que nous allons donc nous quitter, Franck Bergerot. L'histoire continue puisque le propre fils de Dave Brubeck se produit cette semaine en concert en France.
Oui, les 12 et 13 juin au Théâtre de Rennes, dans un projet avec le saxophoniste Guillaume Saint-James, qui est un hommage à leurs pères respectifs. Le père de Guillaume Saint-James ayant été opéré de l'appendicite à la lueur des bougies par les GI en plein combat pendant la bataille de Normandie. Ils se retrouveront donc avec Chris Brubeck pour un grand projet avec l'Orchestre Symphonique de Bretagne et l'Orchestre de Guillaume Saint-James, comme je l'ai dit, les 12 et 13 juin au Théâtre de Rennes.
Et je rappelle bien sûr le numéro de juin de Jazz Magazine Jazzman qui est non pas entièrement mais largement consacré à toute cette aventure. Merci Franck Bergerot, merci à Cédric Châtelet pour la prise de son, à Dorothée Gol qui nous a aidé à préparer cette émission que Christine Amado a réalisée comme chaque semaine, une émission que vous pouvez podcaster et que vous pouvez bien sûr réécouter sur le site francemusique.fr, le site de France Musique.